Je lui ai raconté la projection. Je lui ai parlé des montagnes. Je lui ai décrit la femme de caoutchouc. Je lui ai dit comment j'avais lavé l'injure qui lui avait été faite. Mais je ne lui ai pas parlé de mon rire. J'ai avancé dans mon récit et soudain, submergé par l'émotion, j'ai pleuré devant Louise comme je ne l'avais jamais fait devant personne. Son visage s'est défait. Elle m'a saisi dans ses bras et je me suis laissé aller, ma joue contre sa blouse de nylon. Bientôt, j'ai senti des larmes mouiller mon front. Surpris, j'ai relevé la tête. Louise pleurait, elle aussi, sans retenue. Elle m'a écarté d'elle pour me regarder, comme si elle s'interrogeait sur une décision à prendre. Puis elle a souri et m'a parlé. Le lendemain de mes 15 ans, j'apprenais enfin ce que j'avais toujours su. J'aurais pu, moi aussi, coudre l'insigne à ma poitrine, comme ma vieille amie. Fuir les persécutions, comme mes parents, mes chers statues, comme tous ceux de ma famille, comme leurs semblables, ces voisins, ces inconnus, dénoncés par la dernière syllabe de leur nom en ski, en tal ou en stein. Je découvrais tous ceux qui me l'avaient dissimulé, marqué par cet adjectif si encombrant, si coupable. Louise ne me parlait plus de la foule anonyme des victimes, mais d'elle, de son corps torturé, marqué durant la guerre par une nouvelle singularité, cet insigne, lourd, au point d'accentuer sa démarche chaotante. Elle me disait les phrases qui l'avaient giflée, les panneaux humiliants, les portes fermées, les sièges interdits. Sa surprise, le port de l'étoile devenu obligatoire, lorsqu'elle avait découvert la véritable identité de certains de ses voisins. L'épicier du coin de la rue, au nom si français, le couple de retraités du pavillon d'à côté, le médecin du quartier, de même que le si désagréable pharmacien qu'elle pensait antisémite. La tache jaune les désignait au regard des autres, mais leur permettait aussi de se reconnaître, soudant une communauté qui, à force de se dissimuler, s'était parfois ignorée. J'avais 15 ans, et cette nouvelle donne changeait le fil de mon récit. Qu'allais-je faire de cet adjectif collé à ma silhouette décharnée, semblable à celle que j'avais vue flotter dans des pyjamas trop grands? Et comment allais-je l'écrire sur mes cahiers, avec ou sans majuscule? Un qualificatif venait s'ajouter à ma liste. Je n'étais plus seulement faible, incapable ou inapte. À peine la nouvelle venait-elle de tomber des lèvres de Louise, que déjà, cette identité me transformait. Toujours le même, j'étais devenu un autre, curieusement plus fort. Ce n'était donc ni les privations, ni les réquisitions qui avaient poussé mes parents à tout abandonner pour se réfugier dans l'autre moitié de la France. Louise, était-elle restée rue du Bourg-l'Abbé, comme il l'avait prétendu, à surveiller le magasin, ou faisait-elle partie du voyage? Ce séjour dans l'Indre, avait-il vraiment été le paradis qu'elle m'avait décrit? J'avais tant de questions à poser qui n'avaient encore jamais franchi mes lèvres. Louise vacillait, elle en avait trop dit. Mais ne pouvait en rester là. Elle me devait la vérité. Elle allait se défaire de son serment, trahir pour la première fois la confiance de mes parents. Elle m'aimait assez pour cela, elle qui n'avait jamais eu d'enfant ni, à l'en croire, de véritable amour dans sa vie. La vieille demoiselle allait se faire un devoir de rompre le silence pour celui qui lui ressemblait, marqué comme elle par sa différence. Et je n'imaginerais plus être le premier, le seul. Plus Louise avançait dans son aveu, plus mes certitudes se défaisaient. Une trop forte émotion de ma part l'aurait freinée dans son élan. Aussi je l'écoutais intensément, les yeux secs, maîtrisant mes réactions. L'histoire de mes parents, que j'avais voulu limpide dans mon premier récit, devenait sinueuse. Je parcourais leur chemin en aveugle, exode qui m'éloignait de ceux que j'aimais pour me conduire vers des visages inconnus. Le long d'une route peuplée de murmures, je distinguais maintenant des corps, allongés sur le bas-côté. 3 morts surgirent de l'ombre, dont j'entendis les noms pour la première fois. Robert, Anna et Simon. Robert, le mari de Tania. Simon, le fils de Maxime et d'Anna. J'ai entendu Louise dire « le mari de Tania, le fils de Maxime » et je n'ai rien senti. J'ai appris que mon père et ma mère, avant de devenir mari et femme, étaient beau-frère et belle-sœur. Et je n'ai pas réagi. En équilibre, sur le fil que Louise venait de tendre, les mains serrées sur le balancier, j'ai regardé loin devant moi, l'œil fixé sur la fin de son récit. Louise venait enfin de prononcer le nom de Simon. Il faisait sa première apparition officielle. Après s'être glissé dans toutes ces images, lutteurs anonymes, garçons brutaux, tyrans de cours de récréation. Le frère que je m'étais inventé, celui qui avait rompu ma solitude, ce grand frère fantôme avait donc existé. Louise l'avait connu, aimé. Avant d'être le mien, Joseph avait été son grand-père. Georges, Esther, Marcel, Élise, sa famille proche. Avant de devenir ma mère, Tania avait été sa tante. Comment l'appelait-il? Quel geste avait-elle pour lui? Après m'avoir décrit ses lieux interdits, ses panneaux infamants, ses étoiles brodées des quatre lettres qui me désignaient aujourd'hui, Louise voulait me dire encore une chose, la plus douloureuse. Mais sa voix s'est étranglée. J'allais bientôt devoir traverser le couloir. Retrouver l'agitation du magasin. Je n'étais plus le même. Et ceux que j'allais rejoindre, à quelques mètres du cabinet de Louise, s'étaient transformés eux aussi. Derrière les masques qui venaient de tomber, demeuraient deux souffrances insoupçonnables. Alertés par ma pâleur, mes parents se sont inquiétés, je les ai rassurés d'un sourire. Je les ai observés, ils n'avaient pas changé. Le silence allait persister. Et je n'imaginais pas ce qui pourrait me décider à le rompre. À mon tour, je cherchais à les protéger. Les semaines suivantes, j'allais multiplier mes rendez-vous avec Louise, poursuivre mon enquête. Mon ami ouvrait un à un de nouveaux chapitres. Ces événements, dont j'avais appris les détails dans mon livre d'histoire, l'occupation, Vichy, le sort des Juifs, la ligne de démarcation, ne se réduisait plus au titre en gras d'un manuel scolaire. Il s'animait soudain, photos en noir et blanc qui retrouvaient leur couleur. Mes parents les avaient traversées. Ils en avaient été marqués bien davantage que je ne l'avais cru. Anna surgissait de la nuit, première épouse de Maxime, avec ses yeux pâles, son teint de porcelaine. Mère inquiète et tendre, veillant sur son fils unique. Plus mère que femme, dirait Louise, pour excuser Maxime. Pour ne pas accabler Tania. J'apprenais à connaître Simon, fierté de son père, cœur de sa mère, graine de champion aux muscles déliés, conquérant dès son plus jeune âge. Et lorsque la voix de Louise se brisait, je restais insensible. Je ne parvenais pas à m'apitoyer. Ce qu'elle me disait de Simon provoquait en moi une colère sourde dont je me sentais déjà coupable. J'essayais de me figurer sa détresse, son corps devenu semblable au mien, grelottant sous l'étoffe grossière, ses côtes saillantes, son enfance réduite à cette poignée de cendres soufflée par le vent de Pologne. Mais je ressentais la morsure d'une jalousie féroce lorsque Louise évoquait les traits, le corps si bien dessiné du double parfait de Maxime, couvé par le regard admiratif de son père. Après avoir vécu toutes ces années sous l'ombre d'un frère, je découvrais celui que mes parents m'avaient caché. Et je ne l'aimais pas. Louise m'avait brossé le portrait d'un enfant séducteur, sûr de sa force, semblable en tout point à celui qui m'écrasait chaque jour. Et cette image, conscient de l'horreur de mon désir, j'aurais voulu la livrer aux flammes. Aussi longtemps que possible, j'avais retardé le moment de savoir. Je m'écorchais au barbelé d'un enclos de silence. Pour l'éviter, je m'étais inventé un frère, faute de pouvoir reconnaître celui qui s'était à jamais imprimé dans l'œil taciturne de mon père. Grâce à Louise, j'apprenais qu'il avait un visage, celui du petit garçon que l'on m'avait caché, et qui ne cessait de me hanter. Blessés à jamais de l'avoir abandonné à son sort, coupables d'avoir construit leur bonheur sur sa disparition, mes parents l'avaient maintenu dans l'ombre. Je ployais, sous la honte dont j'avais hérité, comme sous ce corps qui avait exercé la nuit sa tyrannie sur le mien. J'ignorais qu'au-delà de mon torse étroit, de mes jambes grêles, c'était lui que mon père contemplait.